le cas. Nous allons prier, mais avant de prier, je vais lire juste un verset de dans 2 Chroniques, chapitre, pas peine de chercher, je vais juste le lire, hein, 14, verset 15, c'est le roi Asa qui invoque l'Éternel et qui le fait ainsi. Il dit, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. » Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, et que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et donc c'est ce que nous demandons aussi au Seigneur ce soir, qu'il nous vienne en aide dans l'étude de sa parole, qu'il vienne en aide aux forts comme aux faibles, et cela veut dire que les forts comme les faibles ont besoin de l'aide de Dieu. Personne ne peut sans l'aide de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous venons à toi, c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous te demandons à toi seul de nous venir en aide, de nous venir en aide dans l'exposition de ta parole, dans la compréhension de ta parole, et dans la mise en pratique de ta parole. Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous illumine, et que nous puissions croître dans ta grâce et dans ta connaissance. Agis selon ta volonté envers chacun de nous, pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Jean chapitre 10. On avait considéré la semaine dernière une parabole, disait Jean, hein, que les interlocuteurs de Jésus n'avaient pas comprise. Et dans cette parabole, Jésus employait une double image. On avait dit Jean chapitre 10, l'image de la porte et du berger. Chapitre 10, alors regardez le chapitre 10, Jean chapitre 10. J'espère que vous n'avez pas oublié, hein, Jean chapitre 10, verset 1, on va relire le verset 1 jusqu'au verset 18, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui entrent, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai de mon père, que j'ai reçu, pardon, de mon père. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Je suis le bon berger, dit Jésus au verset 11. Donc là, on est dans la série des « Je suis », qu'on va réviser. « Je suis le pain de vie », « Je suis » ensuite. Le deuxième, c'était « La lumière du monde », « Je suis la porte des brebis ». Et puis ici, « Je suis le bon berger ». Alors Jésus revient bien sûr sur l'image, vous vous rappelez, au verset 1 à 5, il avait déjà utilisé cette image du berger et de la porte, et ensuite de verset 7 au verset 10, il développe un peu l'image de la porte, et il revient donc sur la deuxième image de sa parabole, qui est l'image du berger. Et en fait, Jésus insiste. Sur quoi est-ce qu'il insiste, à votre avis, ici? Allez. Sur quoi est-ce qu'il insiste dans ces versets 11 jusqu'à 15, 16, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le bon berger. Donc, sur quoi est-ce qu'il insiste? Sur le fait d'être un berger, ça? Ou sur le fait d'être un bon berger? Donc là-dessus, c'est probablement le qualificatif de bon qui est la chose importante ici. Il ne dit pas simplement « je suis le berger », comme il a dit « je suis la lumière » ou « je suis le pain », mais il dit « je suis le bon berger », comme il a dit « je suis le vrai pain ». Et comme après il dira « je suis le vrai, la vraie cep et mon père est le... » et le vigneron. Donc ici, on sent qu'il insiste sur ce qualificatif qu'il est le bon berger. Et le mot bon ici désigne un peu à le sens de bonté, de générosité, de digne de louange, un peu, et qui le berger qui est digne d'être loué. Et à qui est-ce que à qui Jésus compare-t-il le bon berger? Hein? Mercenaire. Alors, vous voyez, donc, il ne compare pas le bon berger à un faux berger. D'accord? On pourrait dire que le mercenaire, quelque part, est un faux berger, mais il compare à un mercenaire. Alors, si vous regardez au verset 12, il dit ici, verset 11, je suis le bon berger, verset 12, mais le mercenaire. Donc, quelque part, il oppose le bon berger et le mercenaire. Donc il dit pas je suis le bon berger, les autres sont des mauvais bergers. Il dit je suis le bon berger, il y a un bon berger et le mercenaire. Qu'est-ce qu'un mercenaire? Bah oui, parce que c'est quoi un mercenaire? C'est? J'ai pas entendu? Qui travaille pour un salaire, c'est exactement ça. Hein? Exactement ça. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un salaire. C'est un ouvrier, rappelez-vous, que l'on paye à la tâche, on pourrait dire, et il travaille pour un salaire. Donc il y avait probablement des personnes qui étaient louées pour s'occuper d'un troupeau, de brebis, ici. Et Jésus compare le bon berger, dans un premier temps, au mercenaire. Et donc le mercenaire, ce n'est pas le voleur et le brigand que Jésus a décrit auparavant, vous vous rappelez? Il avait dit « Je suis la porte », il a dit « Les autres sont des ceux qui ne montent pas, qui rentrent dans la bergerie en grimpant ailleurs que au lieu que de passer par la porte, ce sont des voleurs et des brigands ». Quelle est la différence entre les voleurs et les brigands? Que font les voleurs et les brigands? Verset 10, regardez le verset 10. Ils volent, ils égorgent et ils détruisent. D'accord? Est-ce que les mercenaires font à peu près la même chose? Non. Les mercenaires, ils s'occupent du troupeau. Ils sont payés pour s'occuper du troupeau. D'accord? Mais ils ont quand même des choses qui font leur particularité et qui font qu'ils ne sont pas le bon berger. D'accord? Alors, petit travail, j'ai pas eu le temps d'imprimer les papiers pour vous, mais sur votre papier, vous allez faire une petite case, vous allez mettre le mercenaire, à côté une colonne, vous mettez le bon berger, et à partir de notre texte, ici, vous essayez de mettre dans les deux catégories les caractéristiques, le contraste qu'on voit entre le mercenaire et le bon berger. D'accord? Je n'ai pas mon tableau là, hop, hop, quoi, le mercenaire, le bon berger, et vous notez, avec les versets que nous avons lus, donc entre le verset 11 jusqu'au verset jusqu'au verset 15, je pense, ce que Jésus dit qui permet de faire la différence entre le mercenaire et le bon berger. Donc maintenant Jean chapitre 10 et on lit du verset 11 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 10 verset 11 jusqu'au verset 15. Donc établissez le contraste entre mercenaire et bon berger. Donc, écrivez ça quelque part, hein, sur votre téléphone si vous voulez, mais bon, mais je pensais que vous aviez un petit cahier de notes. Hein. On a oublié à la maison. Alors, notez ce que vous voyez comme... c'est important, quand on note, hein, on réfléchit soi-même. Hein. Ça, comme nous avait enseigné Timothée il n'y a pas très longtemps, hein, ça facilite la rétention de l'information. Je vous donne une ou deux minutes. Montre en main. Ça y est. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme contraste? Peut-être on peut commencer avec le mercenaire. Hein. Qu'est-ce que vous avez noté concernant le mercenaire? Il abandonne ses brebis. C'est ce qui vous est venu le premier à l'esprit. Tous. Pourtant, c'est pas ce qu'il dit le premier de non? Il n'est pas le berger. Il n'est pas le berger. Donc, le mercenaire, ça n'est pas un berger, déjà. Donc c'est important de souligner ça, il n'est pas le berger. Donc vous avez dit, hein, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis. Quand c'est qu'il, tout le temps, il abandonne les brebis tout le temps? Est-ce que c'est son habitude d'abandonner les brebis? Non, seulement quand il voit le danger. D'accord. Donc s'il abandonne les brebis quand il voit le danger, ça veut dire quoi? Il est lâche, c'est-à-dire? Oui, on pourrait dire ça. Ça veut dire qu'il a... Qui c'est qu'il protège? Lui-même. Il se protège lui-même. Donc le mercenaire, il abandonne les brebis parce qu'il se protège lui-même. Il voit venir le loup et il a peur. D'accord? Donc, et puis qu'est-ce que Jésus dit d'autre? Il prend la fuite, il fuit, hein. Donc ça veut dire que, bon, abandonner, fuir, bon, c'est de toute façon ça qu'il abandonne, hein. Il laisse les brebis sur place. Et puis Jésus dit même que, et les brebis sont sans gardien, qu'est-ce qui se passe? Le loup vient et puis les ravisseurs s'en emparent. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Voilà. Il ne se met point en peine des brebis. Il ne se soucie pas des brebis. Voilà comment agit le mercenaire. Donc il, si on résume, bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, il travaille pour un salaire, on l'a employé pour un salaire, je l'ai dit, mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son argent à la fin de la semaine, de la journée ou du mois, je sais pas. Et si le risque est trop grand par rapport au salaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre la fuite et il va abandonner les brebis. D'accord. Bien, ça c'était pour le mercenaire. Le bon berger, lui. Il donne sa vie pour ses brebis. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il connaît ses brebis. C'est pas dit ici, mais c'est dit avant, je pense. Hein. C'est dit ici qu'il appelle par le nom? Peut-être, tu as raison, j'ai pas fait attention. Je sais que c'est dit au début, hein, oui. Mais en tout cas, il connaît, oui. Il a une voix qui est reconnaissable à ses brebis. Mais ce qui est dit essentiellement de lui, c'est quoi? Vous l'avez déjà dit? Il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est en opposition avec le mercenaire qui va abandonner et qui va fuir les brebis. Donc ici, on va... Alors, finalement, Jésus dit deux choses hein, concernant le bon berger. Il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et puis, après, il développe un peu une autre idée, une autre pensée que Charles a souligné. Il dit quoi? Verset 15, il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Donc, on va considérer le bon berger sous ces deux aspects-là hein, que Jésus développe ici. Donc, premièrement, le bon berger, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Est-ce que vous avez une idée? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour sauver ses brebis. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à mourir. Est-ce qu'il meurt? Mais s'il meurt, les brebis ne sont plus gardées. Non, il parle d'un berger. Le berger, s'il meurt, on est d'accord? S'il meurt, il perd sa vie et les loups sont contents. Hein, ils vont pouvoir dévorer des côtelettes d'agneau tranquillement. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, en fait? Très bien. Il est prêt à risquer sa vie. D'accord? Il dit que le bon berger est prêt à risquer sa vie pour défendre ses brebis. D'accord? D'un danger qui les menace. Contrairement au mercenaire qui ne risque pas sa vie, mais qui lui fuit devant le danger. Donc, Jésus oppose simplement un bon berger terrestre, si j'ose dire, hein, un mercenaire. D'accord? Il ne se compare pas lui-même à un mercenaire, mais pour l'instant, il parle d'un bon berger par rapport à un mercenaire. Un mercenaire pense d'abord à sauver sa peau. Il se met pas en peine des brebis, vous avez dit. Et Jésus donne la raison pour laquelle il agit ainsi. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Lisez, c'est dans le texte, hein. Non, il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas propriétaire. Il dit ça. Il dit une autre chose aussi au verset 13. Il dit... Oui, c'est ça. Il dit, le mercenaire s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il est mercenaire. C'est intéressant. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il n'est pas berger. Il est mercenaire. En fait, c'est dans sa nature propre, son métier, la manière avec laquelle il est embauché, qui fait que il prend pas, souci des brebis. Il y a des gens qui travaillent comme ça, hein, ils sont payés pour parfois soigner d'autres. On dit ça, il y a des gens qui le font avec vocation, puis d'autres personnes qui le font. Bah, voilà, c'est un métier, ils le font, mais si jamais il y a un danger, ils vont fuir, hein, ils vont pas rester là auprès des autres. Et simplement parce que c'est pas une vocation, c'est quelque chose qu'ils ont pour lequel on les paye, on les a attrapés, on les a payés pour faire ce travail. Donc il dit que les mercenaires le font à cause de leur propre nature. Il est payé pour s'occuper des brebis, et autant que ça mette pas sa vie en danger ou en péril, il restera là, mais si tel est le cas, bien il va prendre la fuite. Donc le berger, lui, par contre, il va jusqu'à risquer sa vie pour défendre les brebis. Vous vous rappelez de David, lorsque il était allé à la guerre, enfin, il est venu voir ses frères qui étaient en train de combattre avec l'armée de Saül, et puis qu'il y avait le géant Goliath qui s'avançait pour, qui avait lancé un défi au peuple d'Israël, et puis Saül lui dit, oh, tu vas pas aller te battre, il dit, moi je vais me battre contre ce gars-là. Saül lui dit, mais t'es un enfant, c'est un homme de guerre, tu vas pas pouvoir aller le battre, et tout ça, et puis, rappelez-vous, Samuel dit, ton serviteur, dans 1 Samuel 17, on trouve ça, 31, et puis les suivants, mais il dit, Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Donc David était un berger. Et il dit, quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Donc il fuyait pas, lui. Hein. C'était le contraire. Hein. C'était peut-être le lion qui fuyait. Hein. Il courait après lui, je le frappais, je arrachais la brebis, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, s'il avait le... la mauvaise idée de le faire, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Je me rappelle quand j'étais enfant et qu'on a raconté ça, ça nous faisait, avec les yeux comme ça, ça nous faisait rêver à Monique, parce qu'on avait envie d'être comme ça, attraper un lion, le déchirer, l'enlever de... Mais David dit, voilà, et il dit que si le Seigneur lui permettait de faire cela et qu'il fera de même avec cet incirconcis, autrement dit, ce Goliath qui défie l'armée de Dieu. Et donc on a ici l'image du bon berger. Le danger est là, il va au devant du danger, il ne fuit pas comme le mercenaire. Donc, ce qui fait de Jésus le bon berger, c'est quoi? C'est le fait qu'il, si on prend cette image, qu'il risque sa vie pour ses brebis. C'est ça? Alors, c'est ce que Jésus dit ici, hein, quand il parle de lui, là, qu'il parle, il passe, ce qui est difficile, qu'il passe de la métaphore à lui-même, il passe de l'image du bon berger à lui-même, d'accord? Il dit, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, le mercenaire, c'est ça, le bon berger n'est pas comme le mercenaire, il dit, je suis le bon berger, d'accord? Et on comprend bien que ça veut dire, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est ce qu'il dit au verset 11. Mais quand il dit ça, il dit que le bon berger qu'il est, lui, Jésus ne fait pas que risquer sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire ici qu'il la donne réellement. D'accord? Le bon berger terrestre, il ne va pas avec l'idée de donner sa vie. Il va pour épargner la vie des brebis et puis la sienne aussi. Parce qu'il faut qu'il soit là pour continuer à les protéger. Tandis que Jésus, ici, il dit, il donne sa vie, réellement. D'accord? Il la donne réellement. Ici, c'est ce qu'on lit, par exemple, dans 1 Jean 3, verset 16, quand il est dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il fait un don de sa vie. Il n'essaie pas simplement d'épargner la vie des autres, des brebis, en épargnant la sienne en même temps, mais il fait un don de sa vie. Il la donne réellement. Il n'a pas pris le risque, simplement le risque, mais il a fait un don volontaire. Et donc, quand il dit « je suis le bon berger », il y a cette idée du don réel qu'il fait de sa vie. Pas simplement, ça dépasse juste ce que le bon berger terrestre peut faire. Il dit aussi qu'il ne meurt pas accidentellement, mais intentionnellement. Le bon berger terrestre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller comme David ici, il va se battre contre le lion, contre le loup, il va essayer d'arracher, mais c'est possible qu'il perde la bataille et qu'il perde la vie dans le combat. Mais son intention n'était pas de perdre sa vie. Son intention était de sauver la vie des brebis. Tandis que Jésus, son intention, c'est de mourir pour les brebis. Il est venu pour ça, intentionnellement. Et donc il dit, le bon berger donne intentionnellement, que je suis, donc dit-il, en parlant de lui, donne intentionnellement sa vie pour ses brebis. Il n'est pas parti pour lutter contre les loups, hein, contre les lions qui menacent son troupeau, ses enfants, et puis il a perdu sa vie accidentellement, pas du tout, mais il est venu mourir intentionnellement. Marc 10, 45 dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être, quoi, vous vous rappelez, servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Il est venu pour ça, c'est intentionnel. Okay. Donc dans ce sens-là, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis aussi, sa mort est une, quand il dit ça, il dit, il est venu donner, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et l'expression pour ici désigne que c'est une mort sacrificielle et une mort, on emploie le mot substitutif, ça veut dire à la place de et au bénéfice de, au profit de quelqu'un d'autre. Donc le bon berger donne sa vie pour ses brebis, au profit de ses brebis. Et on trouve ça à chaque fois que dans l'évangile on emploie un peu dans ce sens-là le mot qui est traduit par pour, c'est toujours avec un sens sacrificiel et quelquefois de manière substitutive. Jean 6, 51, regardez en Jean 6, 51, par exemple, il dit « Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Il donne sacrificiellement au bénéfice d'eux. Et donc quand il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il exprime qu'il y a là une... il meurt volontairement, sacrificiellement, et pour le bénéfice de ses brebis. Donc le bon berger sauve ses brebis, non pas simplement en les protégeant de la mort, mais par le fait même qu'il meurt pour elles, et que cette mort, c'est leur bénéfice. C'est ça qu'il faut bien saisir dans ce qu'il dit. Et donc c'est dans cela qu'il est le bon berger. C'est le fait de donner sa vie qui fait de lui le bon berger. C'est pas le fait qu'il fait mieux que des bergers terrestres. C'est le fait qu'il offre sa vie sacrificiellement de manière substitutive comme une rançon pour les autres qui fait qu'il est le bon berger des brebis. Donc ça c'est la première chose qu'il dit. Deuxièmement, dans les versets 14 et 15, si on regarde le verset 14 et 15, il dit, la fin du verset 13, déjà, il dit, « Je suis le bon berger. » Il le redit encore une fois ici. Et puis il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » On le voit bien ici encore, il dit ça. Il avait dit, on n'a pas lu, mais il disait la même chose plus bas tout à l'heure, au verset 18, il dit, « Personne ne me l'ôte, » en parlant de sa vie. Oui, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Donc on voit ici, c'est pas, on disait tout à l'heure, c'est pas une mort accidentelle, c'est quelque chose qui est volontaire, intentionnel, et qu'il fait au moment, à l'heure précise, laquelle il a décidé de le faire. Et donc ça, bon, je suis revenu un peu sur l'idée de tout à l'heure. Ensuite, donc, je reprends ici, au verset 14-15, il dit, « Je suis le bon berger, je connais les brebis, et elles me connaissent, et comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. » Donc le bon berger a une... Donc, premièrement, il donne sa vie pour ses brebis, mais deuxièmement, il a une relation intime avec ses brebis. Ce que n'a pas le mercenaire, qui fuit et qui n'a pas, il dit quoi, qui ne prend pas soin des brebis. Donc, il n'y a pas de relation d'affection entre eux, qui fait que, voilà, quand il y a un danger, il pense à sauver sa peau. Mais quand on aime quelqu'un, vraiment, et qu'on est attaché, quand des parents aiment leurs enfants, ils sont prêts à s'exposer pour sauver leur enfant. Ils ne fuient pas lorsque le danger est là. Au contraire, ils vont avec du courage au devant du danger pour protéger leurs enfants. Et Jésus dit ici que c'est pareil aussi pour le bon berger. Et quand il applique ça à lui, il dit ça va encore plus loin. Il dit c'est le bon berger a une relation intime avec les brebis. Je connais les brebis. Et les brebis me connaissent. Donc il parle ici d'une connaissance mutuelle qui existe entre le berger et les brebis. Cette connaissance, il l'avait déjà évoquée au verset 4, regardez chapitre 10, verset 4, il avait dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. D'accord. Donc cette relation de connaissance mutuelle que le berger a avec ses brebis puise sa force où ? Ça, elle puise sa nature où ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Regardez comment Jésus dit les choses ici. Verset 15, il dit quoi ? Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. C'est ainsi que je connais mes brebis, que mes brebis me connaissent. La connaissance mutuelle qui existe entre le berger, le bon berger et les brebis, entre Jésus et ses brebis, ses enfants, eh bien, puise sa nature même dans la relation qui existe entre le Fils et le Père. Entre la connaissance qui existe entre Jésus-Christ et puis son Père. Il y a connaissance mutuelle des bergers et des brebis, de Jésus et des brebis, parce qu'il y a une connaissance mutuelle entre Dieu et le Père. Et c'est dans cette même connaissance, cette connaissance est de même nature, et c'est dans cette connaissance qui existe de tout temps, d'accord, hein, la Bible dit qu'il existe une relation éternelle de tout temps entre le Père et le Fils, que, eh bien, les croyants viennent puiser leur connaissance avec Christ. Donc il s'agit bien sûr ici d'une connaissance expérimentale et pas simplement intellectuelle. C'est pas juste je connais des choses concernant Jésus que je peux lire dans la Bible. Jésus, il est ceci, il est cela, il est amour, il est venu, il est né d'une vierge, etc. C'est pas que des choses qui sont dans la tête qu'on peut comprendre uniquement avec la tête, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans une relation, dans une affection, dans l'amour. Hein. Le salut lui-même est exprimé en termes de connaissance. Dans le même évangile, que dit Jésus dans sa prière sacerdotale ? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et on comprend bien ici que la connaissance, c'est pas simplement une connaissance. Les Juifs, les pharisiens, ils connaissaient beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas, sur Dieu dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il n'y avait pas de relation. Donc c'est une connaissance qui va jusqu'à la relation, une connaissance intime. Comme quand on dit que Joseph ne connut point Marie, il devait me connaître jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Hein. On comprend bien qu'il y a une relation physique intime, donc c'est quelque chose qui est fort. Et donc spirituellement, c'est aussi une relation qui est très forte, qui désignait ainsi. On se souvient ce que Jésus a promis de répondre à ceux qui vont prétendre à la fin des temps l'avoir connu et l'avoir servi, alors que ça n'a pas été le cas. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, vous voyez, c'est une question de relation, d'une connaissance mutuelle. L'appartenance à Christ s'exprime toujours en termes de connaissance avec lui et de connaissance mutuelle. Il nous connaît et nous sommes aussi connus de lui. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas un enfant de Dieu sans le savoir. J'ai lu qu'il y a des gens qui il y a des gens qui disent, je ne sais pas si je suis un enfant de Dieu. Puis il y a des gens qui disent, j'ai lu tout à l'heure sur Internet, dans certains milieux, des théologiens qui disent, on peut être chrétien sans le savoir. Ça s'appelle, il y a le club des chrétiens anonymes. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, ici. Mais on peut, ou alors, on est un chrétien qui s'ignore. C'est impossible, quand on lit ce que la Bible dit ici. Parce que être chrétien, c'est avoir une relation avec Jésus-Christ, ou dans laquelle il nous connaît, mais dans laquelle aussi nous le connaissons. Et c'est ainsi que s'établit la relation entre la brebis du Seigneur et le bon berger. Donc c'est une connaissance, on l'a dit ici, qui est expérimentale, mais c'est une connaissance mutuelle qui est personnelle aussi. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est quelque chose de personnel, d'individuel aussi. Jésus ne dit pas, je connais le troupeau et le troupeau me connaît. D'accord? C'est pas une connaissance globale. Je connais globalement le troupeau, et le troupeau, voilà, me connaît. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, je connais mes brebis. Les brebis sont dans un troupeau, mais il connaît les brebis, chacune par leur nom. Donc c'est quelque chose qui est personnel. Okay? Donc on ne connaît pas Christ par procuration. On est dans un ensemble avec des chrétiens qui chantent connaître Christ. Donc bon, on pense qu'on le connaît parce qu'on est dans une atmosphère avec un groupe qui clame connaître Christ. La relation avec Christ est une relation personnelle. Bien sûr, en tant que corps, on est tous unis après dans un même corps, mais c'est une relation qui est une relation personnelle, dans laquelle il nous connaît et dans laquelle nous le connaissons chacun individuellement, ici. Donc chaque brebis le connaît. Le sacrifice donc de Christ, je vais terminer avec ça, a pour but, on le voit ici, d'incorporer donc le chrétien dans une relation d'amour avec Jésus-Christ, dans une relation qui existe déjà entre le Père et le Fils. Dans sa prière encore en Jean chapitre 17, Jésus dit ceci, il exprime la réalité de la relation qui existe entre lui et ses brebis, et puis il la compare à la relation qui existe entre lui et son Père encore. Comme il fait ici dans Jean 10 où il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je vous lis, Jean chapitre 17 verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il parle de nous, hein, qui allons croire plus tard par la parole apostolique à l'évangile. Verset 21, il dit, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'ils soient un en nous. Tu es en moi, je suis en toi, et ils sont en nous. Et c'est toujours dans la relation qui existe entre le Père et le Fils que Christ nous amène par son sacrifice, quand on devient un enfant de Dieu. On rentre dans cet amour qui existe de toute éternité. Dieu n'a pas appris à aimer quand il a créé le monde. Il y avait déjà l'amour qui existait entre le Père et le Fils. Et nous devenons participants de cette relation. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'il soit un, toi en moi, moi en toi, afin qu'eux aussi ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et donc Jésus est le bon berger, je résume ici, car c'est le seul qui peut vraiment nous conduire à une parfaite connaissance relationnelle, expérimentale avec le Père. L'apôtre Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Et c'est en cela qu'il est le bon berger. Comment il nous l'a fait connaître? Il nous l'a fait connaître en s'incarnant, en vivant une vie parfaite et en offrant sa vie pour ceux qui sont ses brebis. Et donc, il est le bon berger parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, ce qu'il a fait, et parce que le bon berger établit une relation profonde connaissance entre le Père, le Fils et aussi tous les croyants. Donc, prions Dieu. Merci Seigneur pour ta parole et merci de nous avoir aimés, d'avoir fait de nous tes brebis, d'avoir établi cette relation dans laquelle nous pouvons personnellement te connaître. Connaître le Père. Merci pour ce sacrifice accompli à la croix du calvaire pour nous. Et nous te prions que tu nous donnes de vivre comme de véritables brebis qui entendent ta voix, qui répondent à ta voix et qui te suivent à travers ta parole. Nous te prions d'agir ainsi au-dedans de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.